Trump, anatomie d'une révolution.
Arrivé au pouvoir il y a plus de 10 ans, Donald Trump bouleverse les États-Unis et l'ordre mondial. Derrière le chaos apparent se dessine une idéologie structurée, portée par des penseurs encore méconnus en France, entre post-libéralisme et national-conservatisme.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Maya Kandel.
Épisode 4, 2021, la colère.
Vous ne reprendrez jamais notre pays si vous êtes faible. Vous devez montrer de la force, vous devez être fort. Donald Trump, extrait du discours du 6 janvier 2021 à Washington. On poursuit notre conversation, la révolution Trump, avec Maya Kandel. Merci d'être avec nous. Historienne, l'autrice de La première histoire du Trumpisme, c'est le titre de votre livre publié chez Gallimard, et vos lumières nous éclairent, nous rappellent aussi des choses qu'on avait un peu oubliées, et nous disent à quel point les jalons du passé permettent aussi de comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en Amérique et dans le monde que Trump aimerait dominer. Cet épisode commence par une citation de 2021. On va revenir sur le premier mandat de Trump, mais arrêtons-nous un instant sur ces mots de Trump, le 6 janvier 2021 à Washington. Dans quelques minutes, les émeutiers vont tenter de prendre le Capitole. Qu'est-ce que ça dit du Trumpisme ?
Alors, l'assaut sur le Capitole, le 6 janvier 2021, c'est vraiment un élément fondamental parce que c'est à la fois l'héritage du premier mandat de Trump, une part de cet héritage, et c'est aussi ce qui va être le ciment, le moteur, le début d'autre chose de sa troisième campagne, en fait.
Alors d'abord, qu'est-ce que ça dit donc du premier mandat ? En quoi c'est l'aboutissement ? Alors bien sûr, dans le contexte très précis, c'est juste, il refuse sa défaite, il n'a pas perdu, et il refuse que le Congrès, en ce moment même, le 6 janvier, est en train de certifier les résultats, donc de valider sa défaite électorale. Mais qu'est-ce que ça dit du premier mandat, ça ?
Alors, ce qui est important, c'est de rappeler effectivement le 6 janvier. Donc, oui. C'est une date qui est dans la Constitution. C'est le moment où le Congrès doit voter pour certifier oui. les résultats des élections dans les États. Et cet assaut sur le Capitole, ça a été préparé, organisé. Il y a des groupes Facebook, notamment un des groupes, le groupe Facebook à la croissance la plus fulgurante de l'histoire de Facebook, qui sera désactivé en fait, mais qui naît après la défaite de Trump, qui s'appelle Stop the Steal, donc oui. Arrêtez le vol, qui était le mot d'ordre de ce mouvement. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, parce qu'il y a eu une enquête et un rapport bipartisan qui a été fait par le Congrès 2021-2022, en interviewant essentiellement des républicains et des gens de l'entourage proche de Trump. Donc on sait que cet assaut était seulement la partie la plus visible de ce qui a été un effort, je crois qu'on peut qualifier de tentative de coup d'État légal de la part de Trump et son équipe, parce que Trump refusait sa défaite. On sait aussi qu'il savait qu'il avait perdu. Après, à force de mentir, il s'est oui. peut-être persuadé lui-même qu'en fait, il avait gagné, ou en tout cas, il aurait dû gagner. Mais il y a eu tout un effort qui commence dès le mois de novembre pour essayer de contester les résultats des votes dans les États. Donc, il y a plein de choses qui se déroulent auprès des tribunaux. Ensuite, il y a une autre étape qui est de contester le choix des grands électeurs, qui sont ceux qui choisissent pour l'État qui est le vainqueur. Donc, on a vraiment un espèce de processus qui se déroule avec des avocats, avec des juristes. La base de tout ça, c'est un mémo d'un juriste qui est affilié, encore une fois, à l'Institut Clermont, John Eastman, pour ne pas le citer. Et tout cela repose sur l'idée que, enfin, sur une thèse qui est fausse, que le vice-président pourrait contester les grands électeurs qui sont là. Et un des mots d'ordre de l'assaut sur le Capitole, c'est « il faut pendre Mike Pence ».
Oui, le vice-président.
Le vice-président, puisque Mike Pence refuse, malgré de nombreuses pressions de la part de Trump, de ne pas valider les grands électeurs qui sont transmis au Congrès et qui vont acter la victoire de Biden.
Et d'ailleurs, pour faire un pont à aujourd'hui, enfin en tout cas il y a quelques années, quand Trump a gagné à nouveau, il se murmure qu'il a choisi un vice-président qui, lui, irait jusqu'au bout. Là où Mike Pence l'a lâché, selon lui, au dernier moment, au Capitole, il se dit « le prochain doit être absolument quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout, c'est J.D. Vance ». Revenons donc sur ce que ça raconte aussi du Trumpisme, ce moment-là.
Alors, peut-être quelques mots sur le bilan de oui. Trump, parce qu'en fait, Trump 1, il y a vraiment deux temps et deux manières de oui. l'envisager. sur le plan économique, jusqu'à l'irruption de la pandémie de Covid, sous Trump, l'économie aux États-Unis va bien, le pouvoir d'achat augmente, le revenu médian augmente, l'inflation est tout à fait maîtrisée, les prix de pétrole sont bas. Il bénéficie en fait du redressement économique opéré sous Obama et aussi de sa réforme fiscale hein, qui sera prolongée, qui allège les impôts de tous les Américains, particulièrement des plus riches, mais enfin de tous, donc chacun le ressent. Donc on a ce bilan économique qui est important parce que ça explique aussi que persiste cette idée que Trump,
aurait gagné.
En tout cas jusqu'en 2024, que Trump aurait dû gagner et qu'il a bien géré l'économie et que c'est un bon président pour l'économie. Un autre point important dans son bilan, c'est que Trump, donc, qui avait flatté tous les groupes d'intérêt particuliers essentiels au Parti républicain sur l'avortement, sur une révolution conservatrice au niveau des droits, l'influence des chrétiens évangéliques, notamment vis-à-vis d'Israël, l'importance des lobbies pétroliers, sur tous ces plans, il remplit ses promesses, en quelque sorte.
Oui, ne serait-ce que la capitale. Jérusalem, l'ambassade américaine qui part de Tel Aviv pour aller à Jérusalem, une promesse de campagne qui plaît évidemment beaucoup aux évangéliques américains.
Absolument. Et donc, Trump a ce côté où, voilà, il a promis, il fait. Il a aussi de la chance, hein, comme tout homme politique qui réussit, il y a souvent une part de chance. Il va pouvoir nommer 3 nouveaux juges à la Cour suprême. Bon, c'est lié aussi aux manœuvres politiques du leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, mais on va pas revenir sur ces détails. Mais il y a aussi un autre aspect dans cette présidence qu'il faut mentionner quand même, c'est un espèce de chaos permanent absolument délirant, avec Trump qui s'exprime sans surmoi sur Twitter à l'époque, qui insulte les dirigeants, qui menace de bombarder toutes sortes de pays, etc., qui congédie les gens par des tweets, les membres de son administration. On a un turnover extrêmement élevé, tout particulièrement en politique étrangère, hein, où se succèdent vraiment sur les postes importants, Pentagone, directeur de la sécurité nationale, une succession de gens, donc impression de chaos. Et puis, bon, tout simplement, un vocabulaire politique dans les attaques contre les opposants et dans la déshumanisation aussi des adversaires qui est énorme.
Mais est-ce que, comme on s'interroge ici sur la révolution Trump, est-ce qu'il y a tout de même des choses à retenir d'un point de vue idéologique ou c'est que le chaos qui l'emporte? Est-ce qu'en 2020, vous pouvez dire, tiens, ce premier mandat Trump, il est marqué par quelques décisions qui racontent quand même l'idéologie du personnage?
Alors, non, je pense que vraiment, dès son arrivée au pouvoir, il commence à remettre en question la conception qui était jusque-là un consensus bipartisan aux États-Unis dans l'approche internationale du pays. C'est-à-dire, en fait, de mettre en œuvre ses intuitions de toujours. Retour au protectionnisme, les droits de douane, ça commence à ce moment-là. La guerre commerciale avec la Chine, ça tarde un peu, il en parle beaucoup, mais en fait, ça va véritablement commencer plutôt en 2020 avec le Covid, parce qu'il parle du virus chinois, et puis le Covid, la pandémie vient anéantir son bon bilan économique.
Oui, parce que c'était la deuxième partie que vous aviez pas évoqué, mais après ces bons résultats, il y a le Covid.
Voilà.
Et la gestion du Covid qui va
la l'emporter. Gestion du Covid. Et puis, sur le plan idéologique, pour répondre à votre question, là, les 3 nominations à la Cour suprême, c'est extrêmement important, puisque c'est ça qui explique qu'on aura ensuite la décision de 2022 sur la fin du droit fédéral à l'avortement. Et aussi, je pense, la décision de juillet 2024 qui accorde une immunité totale au président pour tout acte pris lors de sa présidence. Ça, ce sont des cadeaux à Trump, mais ça répond aussi à une conception du pouvoir exécutif qui est un combat idéologique de longue date de ses intérêts que je mentionnais, l'Institut Clermont, la Federalist Society, une organisation très puissante. Donc, on a déjà ces éléments qui se mettent en place sous Trump 1.
Mais on avait commencé l'épisode, vous nous aviez dit, le Capitole, ça raconte des choses d'avant et ça pose des jalons pour après. Alors, les jalons pour après, honnêtement, quand on a beaucoup vu les images du Capitole, on s'est dit Trump, c'est terminé. Trump va disparaître dans les limbes de l'histoire américaine. Il sera considéré comme l'un des pires présidents américains peut-être. Il y aura peut-être même un impeachment ensuite rétrospectif. Bref, on s'est dit, c'est la fin.
Et en fait, ça va être un nouveau commencement. Alors, on a quand même un vote de destitution.
Très rapide
en février 2021 et qui est le vote le plus bipartisan pour ce type de vote. On a 13 républicains au Sénat qui votent pour déclarer coupable de sédition Trump. On a des entreprises qui disent qu'elles ne financeront plus jamais des candidats proches de Trump, etc. Bon, tout ça est très vite oublié. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe d'une part une réécriture quasi immédiate de ce qui s'est passé. Ça commence dans le podcast de Steve Bannon, qui à ce moment-là, entre-temps, a lancé un podcast qui est déjà l'un des 10 plus écoutés aux États-Unis à l'époque.
On raconte quoi? C'est quoi la réécriture?
Alors, comme
c'est...
toujours, il y a plusieurs versions qui sont contradictoires. Ouais. Donc, il y a une version qui dit que ce n'était qu'une manifestation patriotique de bons patriotes américains. Il y a une autre version qui dit qu'en fait, ça a été infiltré par des Antifa, donc ce mystérieux groupe que Trump aime beaucoup invoquer. Et d'autres, enfin, qui disent qu'il y avait des agents du FBI infiltrés qui ont fait exprès de provoquer des troubles. Toute l'enquête et même des images de ce qui s'est passé ce jour-là montrent qu'il y avait un assaut préparé, il y avait des milices qui s'étaient préparées, qui ont joué un rôle important dans la coordination de la foule, etc. Après, il y a aussi un phénomène de foule, bien sûr, mais voilà. Donc, il y a tous ces efforts de réécriture qui visent toujours le même but, en fait. C'est introduire de la confusion sur ce qui s'est passé réellement. Et ce qui est assez frappant, mais récurrent dans cette époque trumpiste aux États-Unis, c'est qu'on voit des élus républicains, donc les élus les plus MAGA, les plus proches de Trump, des gens comme Paul Gosar, comme Marjorie Taylor Greene, qui vont en fait non seulement reprendre ce récit alternatif des faits, mais en plus, ils vont même le verser au registre officiel du Congrès. Donc, très rapidement,
ça veut
en
dire
fait,
quoi juste ça veut dire quoi le verser au registre,
c'est-à-dire qu'ils prennent les articles ou des extraits qui racontent ça, qui viennent de podcasts, etc., et ils le font verser au Congressional Record.
Ah, donc il est officialisé, quoi.
Voilà, donc c'est vraiment un effort très large de réécriture de l'histoire en direct.
Mais il y a ça, mais aussi il y a toutes les affaires judiciaires qui vont traverser cette période pour Trump, qui fait qu'on a l'impression qu'il va disparaître, qu'il va aller en prison, et pour autant il va s'appuyer là-dessus pour apparaître comme à nouveau la victime des élites, la victime de l'État profond qui ne veut absolument pas de son retour parce qu'il est l'homme qui peut sauver l'Amérique. C'est quand même frappant.
C'est exactement comme ça qu'il lance sa campagne, effectivement. Il la lance très tôt, en novembre 2022, donc juste après les élections de mi-mandat. Et il la lance précisément là-dessus, en disant « Moi aussi, je suis victime de ce système injuste. Moi aussi, je suis poursuivi par cette justice, au moins de démocrate marxiste sénile. Et je vais être votre bouclier. C'est moi qui vais vous protéger de ce système. Je vais me battre. » Et en fait, c'est... Il a même déjà, je dis novembre 2022, mais en réalité, dès le début 2022, il commence à aller dans des podcasts masculinistes, chez Joe Rogan, etc. Donc, en fait, il commence très tôt ce retour. Et ce qui est frappant sur l'année 2023, qui est l'année où chacun des... Je sais plus, il y en a eu plus d'une quinzaine à nouveau de candidats républicains à la primaire. Chacun se déclare. Mais cette année 2023, c'est aussi l'année où de nouveaux procès s'accumulent contre Trump. Et en fait, ce qu'on observe, si on regarde les sondages d'opinion côté républicain, c'est qu'à chaque nouveau procès, il devient plus populaire. Mmh. Et ça entérine en quelque sorte la posture qu'il présente pour cette élection. Ça entérine aussi sa version alternative de ce qui s'est passé le 6 janvier. Et donc, on voit que au moment où, avant même que les primaires commencent, quand il y a les premiers débats, il ne va participer à aucun débat, Trump est déjà largement en tête face à tout un camp de candidats républicains qui, en plus, sont ultra-trumpistes dans le langage et dans les propositions.
Et se prépare déjà la révolution, peut-être véritable, qui est celle de son second mandat. On l'évoquera dans le prochain épisode. Trump, anatomie d'une révolution, est un podcast original de France Inter.